Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va revenir amplement sur ce qu'on appelle désormais l'affaire des sous-marins, cette rupture unilatérale d'un contrat par l'Australie qui la liait à la France. On va en parler avec l'historien Romain Fati, il est professeur à l'université Flinders d'Adélaïde. On fera aussi, comme d'habitude, le point sur l'actualité sportive et puis, comme tous les samedis, on va revenir sur un événement historique majeur, en l'occurrence l'abolition de la peine de mort en France il y a tout juste 40 ans. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal, on y va. Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 18 septembre 2021. La crise déclenchée par l'affaire des sous-marins s'intensifie avec ce matin la décision de Paris de rappeler ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. En Algérie, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika est mort à l'âge de 84 ans. Et l'Australie vient de recevoir son premier lot de vaccins anti-Covid fabriqués par Moderna. Et la crise des sous-marins qui a émergé jeudi a franchi un nouveau cap ce matin avec le rappel à Paris de l'ambassadeur de France à Canberra, tout comme d'ailleurs celui de son homologue à Washington. La rupture unilatérale du contrat portant sur l'acquisition de 12 sous-marins auprès de Naval Group est vécue comme une trahison par l'exécutif français, une trahison qui pourrait même remettre en cause la signature du traité de libre-échange en cours de négociation entre l'Australie et l'Union européenne. C'est ce qu'a indiqué hier soir Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, dans une interview accordée à France 24.
Les ministres des armées et des affaires étrangères ont l'occasion de le dire, c'est une grave rupture de confiance de la part de l'Australie. Vous savez, les relations internationales, c'est pas de la naïveté, c'est pas des bons sentiments, mais la parole et la signature d'un contrat en particulier vaut quelque chose. Si on n'a plus confiance, on ne peut pas avancer. On a des négociations commerciales avec l'Australie, je ne vois pas comment on peut faire confiance aux partenaires australiens. Ne nous trompons pas, ce n'est pas un sujet contre la France ou une mauvaise humeur française. C'est une rupture de confiance qui s'est jouée avec l'Europe.
Et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a pour sa part souligné qu'au-delà du contrat sur les sous-marins, cette affaire était très loin d'être terminée. C'est ce qu'il a expliqué sur France Info.
Ce n'est pas fini. Parce que,
qu'est-ce qui va se passer?
Il va falloir des clarifications. Nous avons des contrats. Il faut que les Australiens nous disent comment ils s'en sortent.
Vous allez demander des indemnités?
Il va falloir donner des explications.
Explications ou de l'argent?
On va voir. Et nous avons un accord intergouvernemental que nous avons signé en grande pompe en 2019 avec des engagements précis, des articles de ce texte. Comment ils s'en sortent? Il va falloir qu'ils nous disent. Donc on n'est pas à la fin de l'histoire.
À ce stade, le gouvernement australien n'a pas réagi officiellement au rappel de l'ambassadeur français à Paris. En revanche, dans l'opposition, Mark Dreyfus, qui officie en tant que Shadow Attorney General, estime que Scott Morrison devrait prendre la colère française au sérieux.
The French were blindsided by this decision and Mr. Morrison should have done much more to protect the relationship. The Morrison-Joyce government needs to explain what it is going to do to fix this important relationship.
Ce rappel de l'ambassadeur à Paris, c'est en tout cas une mesure exceptionnelle et totalement inédite dans la relation diplomatique franco-australienne. Mais exactement, quand un pays rappelle un ambassadeur, qu'est-ce que ça signifie? On va écouter les explications d'Antoine Bondaz. Il est chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il a donné quelques éléments de compréhension à nos confrères de Radio France Internationale.
La France, très clairement, indique son mécontentement, sa colère et même un sentiment de trahison vis-à-vis des États-Unis et de l'Australie, et notamment hein, par rapport à ce qui a été révélé dans la presse ces dernières heures, c'est-à-dire que malgré les demandes explicites de la France ces dernières semaines, ces derniers mois, pour savoir si l'Australie était en train peut-être d'évaluer un changement dans sa position, et notamment potentiellement chercher à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, les Australiens et les Américains avaient alors confirmé aux Français qu'ils ne cherchaient pas cette option, que ce n'était pas envisagé, et donc le sentiment de la trahison côté français est extrêmement important, et cette décision de rappeler dans les ambassadeurs vise à faire comprendre à Canberra et à Washington que la France est extrêmement déchue, se sent trahie et est en colère.
En Algérie, la télévision publique a annoncé il y a quelques heures le décès de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, mort à l'âge de 84 ans. Ancien héros de l'indépendance algérienne, Abdelaziz Bouteflika était devenu un personnage omniprésent dans la vie politique locale au cours des 60 dernières années. Il avait fini par être écarté du pouvoir en 2019 alors qu'il entamait un cinquième mandat présidentiel sous la pression à la fois de la rue et de l'armée. Retour sur son parcours avec Marie-Pierre Olfant pour RFI.
C'est en 1937 qu'Abdelaziz Bouteflika voit le jour au Maroc, là où son père avait émigré très jeune. Mais il n'oublie pas ses racines. Quand en 1956, en pleine guerre d'Algérie, les indépendantistes demandent aux étudiants de rejoindre le mouvement de libération nationale, il entre très vite au FLN et devient même secrétaire particulier du colonel Boumédienne. En 1962, à l'indépendance, il n'a que 25 ans quand il est nommé ministre de la Jeunesse, puis ministre des Affaires étrangères, le plus jeune à ce poste dans le monde. Un poste qu'il occupera 16 ans au moment où son pays joue un rôle important au sein du mouvement des non-alignés. À la mort de son mentor Boumédienne, il est pendant un temps écarté de la vie politique et poursuivi même pour détournement de fonds. Abdelaziz Bouteflika laisse passer l'orage. Après des années de décennies noires, il se présente en 1999 à la présidentielle avec le soutien des militaires. Après deux mandats, il modifie la constitution, ce qui l'autorisera à rester au pouvoir. En 2014, il est réélu pour un quatrième mandat qu'il passera assis sur sa chaise roulante, très affaibli par un accident vasculaire cérébral.
En France, une nouvelle journée très éprouvante au procès des attentats du 13 novembre 2015. Vendredi, c'est un policier de la brigade criminelle qui est apparu à la barre. Il a détaillé les constatations qu'il a faites au Bataclan, cette salle de spectacle où 90 personnes ont été abattues. Il a décrit une scène de guerre. On revient sur cette journée d'audience avec Marine de la Moissonnière pour RFI.
22 secondes qui, comme a prévenu l'enquêteur, durent une éternité. De la musique d'abord, puis des bruits secs, des tirs en rafale, puis par à coup, un larcène. On entend vaguement des cris, la musique finit par s'arrêter. Dans la salle d'audience, un silence extrêmement lourd. C'est un dictaphone retrouvé sur place qui a enregistré la barbarie, explique le policier très ému. Écoutez, ce bref extrait permet de réaliser le côté soudain de l'attaque. Une attaque qui a duré 2h38 minutes et 47 secondes jusqu'à l'assaut de la BRI. Précise encore l'enquêteur, l'intégralité de la bande a été retranscrite, mais lui ne lit à la barre que certains propos des terroristes. Vous bombardez nos frères en Syrie et en Irak, on est venu faire la même chose, l'heure de la vengeance a sonné. Voilà pour les revendications, aucune image décor n'est diffusée. C'est à l'aide de clichés du Bataclan tel qu'il est aujourd'hui que l'enquêteur indique où sont mortes chacune des 71 personnes abattues à l'intérieur de la salle. À chaque fois, le policier lit le nom des victimes. Dans la salle d'audience, quelques pleurs. La majorité des personnes sont mortes dans la fosse au début de l'attaque. Les terroristes ont tiré plus de 250 fois en une demi-heure. Des rafales la plupart du temps, mais aussi des coups de feu sporadiques.
Aux États-Unis, la sécurité a été renforcée autour du Capitole à Washington alors que des centaines de manifestants d'extrême droite ont prévu de s'y rassembler pour apporter leur soutien aux émeutiers qui ont été arrêtés après l'assaut de ce même bâtiment, siège du pouvoir législatif américain, en janvier dernier. Parmi les moyens déployés, une centaine de membres de la garde nationale. Le chef de la police du Capitole, Thomas Menger, a indiqué que les menaces de ce rassemblement étaient prises très au sérieux par les autorités.
Our mission tomorrow is our mission every day, and that is to protect everyone's rights to free speech and to allow them to lawfully demonstrate. And we have a strong plan in place to ensure that it remains peaceful and that if violence does occur, that we can stop it as quickly as possible. We're not going to tolerate violence and we will not tolerate criminal behavior of any kind.
Le gouvernement britannique, pour sa part, a annoncé la mise en place de nouvelles règles plus souples concernant les voyages à l'étranger. Les conditions de dépistage, notamment, seront allégées pour les personnes complètement vaccinées. Elles n'auront plus besoin d'être testées avant de partir. En revanche, elles devront toujours se soumettre à un test avant d'atterrir en Grande-Bretagne. Mais à partir du mois prochain, ce test sera plus simple et surtout moins cher. Un assouplissement que le secrétaire d'État aux transports, Grant Chipps, justifie par le taux élevé de vaccination en Grande-Bretagne où 82% de la population âgée de plus de 16 ans a reçu les deux doses de vaccin.
It does give us some additional freedoms that we didn't really have before. One of those is that we can drop the pre-departure tests. Another is that we can drop the expensive PCR tests on day two when people got back from abroad. But we will still require people to buy and use a lateral flow test. Everyone knows they're much more straightforward. They're inexpensive. You do the test at home. You see the result at home within minutes.
Et alors qu'en Angleterre, donc, les conditions d'entrée dans le pays en cette ère de pandémie s'assouplissent, elles vont se durcir à partir de lundi en Suisse, où donc dès lundi, toutes les personnes non vaccinées devront présenter un test négatif pour entrer dans la Confédération. L'Australie vient de réceptionner son premier lot de vaccins produits par Moderna. Au total, 1 million de doses doivent arriver au cours du week-end. Ce vaccin est réservé aux personnes âgées de 12 à 59 ans. Et comme pour les vaccins Pfizer et AstraZeneca, il faut recevoir deux doses pour être immunisé. Un nouveau vaccin donc dont les autorités espèrent qu'il permettra d'accélérer la vaccination des plus jeunes. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, veut y voir un moyen d'atteindre rapidement l'objectif de 80% de la population immunisée.
There's sufficient vaccine for every Australian before the end of October, if not significantly earlier. The supply is there and the opportunity is there. And so if you haven't been vaccinated, please come forward. But if it's a friend or a family member, please keep encouraging people to come forward to protect themselves and to protect all of us.
Et dans les deux plus grandes villes du pays, Melbourne et Sydney, la police est en alerte puisque des manifestations anti-confinement sont prévues aujourd'hui. Des barrages routiers ont été mis en place pour bloquer l'accès au centre-ville de ces deux villes. Et le fonctionnement des trains, des tramways et des bus va être interrompu à Melbourne jusqu'à 14 heures. Seuls les travailleurs essentiels et les personnes ayant rendez-vous pour se faire vacciner seront autorisés à franchir ces barrages routiers. Mais ces interruptions de trafic sont une source importante de gêne pour les usagers des transports publics à Melbourne. C'est l'avis de Daniel Bowen, le porte-parole de l'Association des usagers des transports en commun.
It's unprecedented to shut down the entire inner part of the public transport network. And so the government does need to do everything they can to mitigate that disruption for the people that do have to travel. People who are going to a vaccination appointment, people who are essential workers do have to get around and they're going to find it very difficult.
Et on fait maintenant un point sur la météo du jour en Australie. Un peu de pluie à Perth où il fait 20 degrés aujourd'hui. Temps humide aussi à Adélaïde avec 17 degrés, 16 degrés à Melbourne, 26 à Sydney, mais le temps est nuageux. Grand soleil en revanche à Brisbane où il fait 26 degrés. Ça monte jusqu'à 28 à Cairns et carrément jusqu'à 34 à Darwin. C'est l'heure d'un nouveau magazine des sports et on commence tout de suite avec le football et les résultats des matchs qui se sont joués hier soir. L'équipe de France féminine a écrasé la Grèce sur son terrain avec une victoire 10-0 dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. En Ligue 1, Strasbourg, actuel 10e au classement, s'est imposé à domicile 3-0 face à Metz, grâce notamment à un doublé de Diallo. Mais la grosse rencontre du week-end dans le championnat français, ce sera le choc entre le Paris Saint-Germain et Lyon, un match qui, par ailleurs, sera pour Lionel Messi le premier où il jouera au Parc des Princes depuis son transfert dans le club parisien. En première ligue, Newcastle et Leeds se sont neutralisés hier soir, un partout, tandis qu'en Espagne, Cadiz s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo en gagnant 2-1. Et puis, l'autre projet majeur qui agite la planète foot en ce moment, c'est celui de la FIFA qui voudrait organiser la Coupe du Monde tous les deux ans. Un projet porté notamment par l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger. Il assure que les retours qu'on lui fait sur cette proposition sont globalement positifs. On l'écoute.
Dans l'ensemble, j'ai reçu des réponses favorables. Mais cette décision est une décision démocratique et sera faite avec les 211 pays affiliés à la FIFA. On va continuer à en discuter jusqu'en décembre. Après cela, ce sera à chaque fédération d'en décider. Je suis convaincu à 100% que ce que je propose est la bonne solution pour organiser le football de façon moderne. Si d'autres personnes ont de meilleures idées, elles seront les bienvenues. Je suis ouvert sur le sujet.
On passe maintenant au tennis et le tournoi WTA, donc le tournoi féminin qui se déroule en ce moment même au Luxembourg. Hier se sont joués les quarts de finale. Ostapenko s'est imposée face à la Française Alizé Cornet. Elle jouera demain contre la Russe Samsonova, qui, elle, l'a emporté contre la Suisse Bencic. Et l'autre demi-finale opposera la Tchèque Vondrousova, vainqueur hier de la Belge Mertens, à la Danoise Tauson, qui a battu 6-3-6-2 la Tchèque Bouskova. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en matière d'actualité sportive. On fera un nouveau point demain.
J'ai dit comportement bah ouais, je suis dans mon comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais, les mecs ont bombé la torse ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais, les verges remplies d'oseille ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais, je suis un compo.
Comportement, c'est le nom du morceau qu'on vient d'écouter. Il est interprété par la chanteuse Aya Nakamura. Pour la dernière partie de notre émission, on retrouve notre rendez-vous habituel du samedi, celui au cours duquel on revient sur un événement historique marquant. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire, puisque il y a tout juste 40 ans, les députés à l'Assemblée nationale votaient l'abolition de la peine de mort en France.
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
C'est fait, les députés ont adopté en première lecture par 360 voix contre 117 l'ensemble du projet de loi qui porte abolition de la peine de mort.
L'article premier, qui je rappelle était ainsi libellé, la peine de mort est abolie. Nombre de votants, 487. Suffrages exprimés, 482. Majorité absolue 242 pour 369 contre 116, l'Assemblée nationale a adopté.
18h44, l'Assemblée nationale vote en première lecture l'abolition de la peine de mort en France. Un vote massif qui va bien au-delà des clivages de majorité-opposition, 369 pour, 116 contre. En gros, 3 quarts, 1 quart. On sait que les sondages régulièrement effectués depuis 10 ans donnent des pourcentages inversés.
42 membres de l'opposition ont ajouté leur voix à celle des socialistes et des communistes. Parmi eux, Jacques Chirac, RPR, et Michel Dornano, UDF. M. Barre a voté contre. Côté socialiste, un seul vote hostile et une abstention. Le garde des Sceaux avait dû ferrailler une bonne partie de l'après-midi pour obtenir qu'aucun additif ne soit apporté à cette décision. Il avait promis à ceux qui, dans les deux camps, souhaitaient obtenir des assurances pour que les criminels ne soient pas remis trop rapidement en liberté, que dès avril, le Parlement serait saisi des textes sur l'exécution des peines et le plus vite possible, ou plutôt dans un an, que l'échelle de ces peines serait révisée.
garde des Sceaux qui refuse de discuter en termes d'échange l'abolition contre quelque chose. Robert Badinter dit l'abolition est une chose, est un choix d'éthique sociale, un choix moral, on est pour ou on est contre. Ensuite, ce choix fondamental étant fait, on étudie et on réforme l'aspect technique de l'échelle des peines criminelles en France. Alors en réalité, jusqu'à maintenant, la peine de mort était le pivot, le symbole de la justice de notre système judiciaire. L'abolition est un autre symbole, un symbole d'une autre conception de la justice française. À première vue, le garde des Sceaux n'en démordra pas.
Nous étions les seuls dans toute la communauté à conserver la peine de mort, comme s'il y avait un attachement indéfectible des Français à la guillotine. C'était pas tolérable. La majorité du Sénat était, ce qu'on disait, favorable au maintien de la peine de mort.
Moi, j'étais le rapporteur de la commission des lois. C'est une situation un peu particulière, parce qu'à l'intérieur de la commission elle-même, il n'était pas dégagé de majorité pour une position précise. J'ai donc été amené à expliquer à nos collègues sénateurs que la décision était entièrement entre leurs mains, en donnant les arguments contre l'abolition de la peine de mort, puisque M. Badinter s'était chargé avec quel talent de donner les arguments pour la suppression de la peine de mort, de telle manière que le débat soit équilibré. On sentait très bien que passait dans l'hémicycle un peu le souffle de l'histoire.
Les 35 ans, moi je vous les résumerai très brièvement, ça a été une accélération presque foudroyante de l'abolition universelle. La marche vers l'abolition universelle s'est accélérée à tel point que je ne l'aurais pas, pour ma part, prévu. Nous étions le 35e État abolir la peine de mort dans le monde, dernier en Europe occidentale. Et aujourd'hui, sur les 198 États que comptent les Nations Unies, 150 environ sont abolitionnistes. Donc c'est vous dire de 35 à 150 à quel point la marche vers l'abolition universelle s'est étendue et accélérée.
Portée par le ministre de la Justice Robert Badinter, avocat fervent abolitionniste, cette loi marque l'aboutissement d'un débat qui divise la France depuis deux siècles.
Je dis que cette conception-là de la justice n'est pas celle des pays de liberté, précisément parce qu'elle emporte en elle de significations totalitaires.
La France est alors l'un des derniers pays d'Europe occidentale à supprimer la peine capitale. Le 10 mai 1981, à l'aube d'une nouvelle décennie, les Français élisent un nouveau président, François Mitterrand. C'est le grand retour de la gauche après 23 années de droite au pouvoir. Mitterrand promet de réformer la société française en profondeur. Augmentation du SMIC, retraite à 60 ans, création d'un impôt sur la fortune, abolition de la peine de mort.
Je suis contre la peine de mort.
Abolir la peine de mort. Depuis deux siècles, nombreuses sont les voix qui s'élèvent contre cette sentence glaciale. Instaurée pendant la Révolution française, elle devait abréger les souffrances et permettre l'égalité devant la mort, sans aucune incidence sur la courbe de criminalité. Dans les années 70, plusieurs affaires criminelles font frémir le pays et ralentissent encore davantage les mouvements abolitionnistes. Buffet, Ranucci, Carin, Henri, des noms qui remplissent d'effroi la tête et le cœur des Français. La foule réclame la mise à mort.
Le jury condamne Buffet-Claude et Bontemps-Roger à la peine de mort.
En 1976, l'affaire Patrick Henry, particulièrement odieuse et extrêmement médiatisée, marque les esprits.
C'est celui qui a tué un enfant de 7 ans.
Pourtant, malgré l'horreur et la haine, cette affaire sera décisive pour l'abolition de la peine capitale. Patrick Henry échappe à la guillotine et est condamné à perpétuité. Derrière cette décision qui suscite l'indignation populaire, le combat acharné d'un jeune avocat, Robert Badinter.
Vous devez, vous jurer, décider que vous allez tuer quelqu'un qui est devant vous.
Il transforme l'affaire Patrick Henry en procès contre la peine de mort et parvient à convaincre les 12 jurés de ne pas faire exécuter le criminel.
Patrick Henry n'aura pas la tête tranchée.
À l'Assemblée nationale, le débat est relancé et de nouveaux amendements abolitionnistes sont présentés. Mais quelques mois plus tard, la guillotine frappe une dernière fois.
Un condamné à mort a donc été exécuté ce matin à la prison des Baumettes.
Il faudra attendre l'élection de François Mitterrand et son ministre de la Justice Robert Badinter pour que la peine capitale soit rayée du code pénal, malgré une opinion publique encore favorable à son maintien. La peine de mort est encore appliquée dans 56 pays. En 2017, on recensait 993 exécutions, auxquelles il faut ajouter celles classées secret d'État en Chine, plusieurs milliers d'après Amnesty International.
Des instants qui naissent et qui meurent dans la même seconde, comme des deuils qui dansent. Alors j'ai fermé les yeux dans cette boîte de nuit, et sous la lumière je me suis remise à danser. Et j'ai dansé, encore, en souriant.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau du groupe Catastrophe et qui s'intitule « Maintenant ou jamais ». Notre prochain rendez-vous, c'est demain, dimanche, à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Pour cela, il suffit de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming audio préférée. Je tiens à remercier Robbie pour l'assistance technique qu'il a apportée pendant cette émission. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis aussi à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.